Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Une émission, une discussion avec Dominique Duvivier, magicien. Dominique Duvivier, bonjour.
Bonjour.
Alors, Dominique, je vais vous présenter, on va commencer l'émission par une petite expérience, si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas du tout au courant de ce qui va se passer, mais je vais vous demander réellement de faire l'expérience. Vous allez simplement fermer les yeux, allez-y, et vous écouter. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous venez d'entendre un son, quelque chose. J'aimerais savoir ce que pour vous, qu'est-ce que ça évoque ?
Bah, vous avez sorti un jeu de cartes de son étui et vous avez fait claquer une carte.
Voilà, exactement. Ce genre de son, de bruit, en magie, en quoi c'est important ?
Bah, je ne sais pas si ça a une importance extraordinaire. Simplement, comme j'ai fait ça des milliers de fois dans ma vie, le son est familier.
Mais alors, en quoi ça peut être important pour vous ?
Ah ouais. Bah, c'est important pour moi parce que moi, quand j'ai commencé la magie, sérieusement, en fait, tout en ayant fait du close-up avec le professeur René Lys quand j'étais môme de 8 à 20, je me suis passionné par la grande illusion. Et j'ai acheté plein de conneries de grande illusion que je faisais dans mon salon, exclusivement dedans, pour quelques amis qui se sont bien foutus de ma gueule parce que c'était quand même très approximatif ce que je faisais. Et tant et si bien que ma femme m'a dit un jour « Il va falloir arrêter parce qu'on n'a déjà pas d'argent, t'as tout dépensé dans ce qu'on n'avait pas dans les grandes illusions. » Il faudrait maintenant les revendre. Et j'ai eu l'idée fumeuse de vendre mes grandes illusions pour acheter un jeu de cartes, pour symboliser. En me disant, ça allait coûter moins cher de faire des cartes que de faire des grandes illusions. Ce qui n'était pas faux au départ, mais qui n'a pas été forcément vrai par la suite. Mais toujours est-il que je me suis lancé corps et âme dans le principe du jeu de cartes, par opposition aux grandes boîtes qui remplissaient mon salon. Donc voilà ce que ça évoque pour moi au départ, la carte à jouer, quoi.
Alors, pourquoi j'ai fait ce petit exercice aussi ? Parce que un tour de magie, c'est ce qu'on voit, mais c'est aussi ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend au premier degré par rapport aux objets qui font un certain bruit, mais c'est ce qu'on entend aussi du magicien qui va ressentir le besoin de claquer des doigts ou de dire un texte. Alors là, il y a beaucoup de choses. Donc on va essayer de saucissonner tout cela, parce que je pense qu'une seule émission ne pourra pas suffire à ce genre de thème. On va commencer par le bruit, un claquement de cartes, un effet qui arrive. Est-ce que le son, enfin, en quoi le son peut avoir son importance ?
Oh ben, pour moi, il a une importance capitale, le son, à ce niveau-là. Dans le sens que, quand tu crées un effet visuel, je pars du principe, je ne sais pas si je suis l'inventeur de ça, mais je suis celui qui le pense le plus, c'est qu'il faut automatiquement, pour fabriquer un effet visuel, le concrétiser avec un choc auditif.
Un choc auditif.
Ouais, choc auditif, choc visuel. En d'autres termes, si on prend par exemple avec un jeu de cartes, puisque tu en parlais à l'instant, on imagine, tu fais choisir une carte au hasard, mettons c'est l'huit de pique, et tu mélanges, et tu dis, est-ce que c'est la carte qui est dessus ? Et tu montes la carte du dessus du jeu, qui est mettons la dame de carreau.
Oui.
Et les gens disent non, c'est pas la dame de carreau. Ah bon ? Tu prends cette dame de carreau, tu la fais craquer, comme tu as fait tout à l'heure, crac. Et là maintenant tu la retournes, et cette dame de carreau est devenue le 8 de pique. On vient de créer un choc visuel et auditif qui a créé la transformation.
Et donc on a vécu la transformation, bah parce que déjà on l'a vu,
oui.
Mais aussi parce qu'on l'a entendu.
Elle s'est concrétisée. C'est, pour moi, le craquement de la carte, la dame de carreau qui a craqué et qui a du coup s'est transformée en 8 de pique, c'est l'ancêtre de Mickey avec Disney quand il fait l'apprenti sorcier et il a sa baguette magique et il fait ça avec sa baguette. Tu vois des étoiles qui suivent la baguette et schloum, il y a une pluie d'or, tu sais, qui émane de la baguette, et maintenant il y a eu une transformation qui vient de s'effectuer. Donc pour moi, le choc auditif de la carte qui craque, c'est comme si on prenait une baguette magique et qu'on tape sur l'objet pour le transformer.
Alors c'est intéressant parce que on va parler un peu de cinéma du coup. Le cinéma commençait par être muet. Après, il s'est transformé, il est passé du noir et blanc en couleur par ailleurs. Mais le cinéma était muet, mais dans les cinémas muets à l'époque, au début des années 1900, il y avait quelqu'un qui jouait du piano en live,
ouais, ouais.
Parce qu'on ne pouvait pas se contenter de l'image. On est obligé d'y apporter quelque chose, quoi, du son. Alors, le cinéma, c'est un effet magique. On peut imaginer qu'à l'époque, les gens le vivaient comme un effet magique. Et ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, on revient aux fondamentaux du cinéma, en oui. quelque part. Un tour, c'est aussi un mini-métrage avec du son, des effets visuels, etc. etc.
Tout à fait. Il est clair que le cinéma... la magie est le prolongement du cinéma, ou le cinéma est le prolongement de la magie, puisque c'est étroitement lié. Toi, tu dis « je suppose » ou « on suppose que ». Moi, je dirais « on suppose pas du tout ». Les gens qui ont été voir le cinématographe, qui payaient leur place pour voir des images qui bougent, étaient largement contents de voir sur un écran blanc des personnages qui bougent, qui vivent, hein, qui font des choses. Très vite, Méliès a trouvé l'idée de créer, par des effets spéciaux, basiques, puis plus sophistiqués, de la magie réelle en rapport au plan, à l'idée même de la base du cinéma. Et c'est pour ça que je pense que la magie et le cinéma sont très très liés. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je dépasse un peu le cadre de ce que tu dis. Les scientifiques se sont souvent inspirés des tours de magie des magiciens. Et non pas le contraire. Parfois, c'est le contraire. Mais n'empêche que des scientifiques ont essayé de résoudre scientifiquement des choses que les magiciens avaient résolues, évidemment, d'une manière fausse. Mais n'empêche qu'on obtenait. Hein, par exemple, on est capable en magie de changer l'eau en vin.
Oui.
En vérité, on la change pas, mais n'empêche que l'illusion fait que on l'a changée. Et ben après, des scientifiques ont essayé vraiment de comprendre chimiquement comment on pouvait, par exemple, changer l'eau en vin. Donc là, c'est parti de la magie vers la science. De la même façon que je crois que la magie a servi le cinéma.
C'est intéressant parce que aujourd'hui, des scientifiques travaillent d'arrache-pied sur l'invisibilité. Comment rendre une chose invisible. Ça illustre parfaitement ce que
tout à fait.
Je veux dire.
C'est-à-dire,
l'invisibilité, c'est une peut-être que vous classez ça dans une famille.
Oui.
Oui. Alors, on parle du cinéma, on parle donc forcément de mise en scène, et on vient de citer un mot qu'on n'a pas encore cité depuis le début de ces émissions, qui est le mot de famille. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une famille en magie.
Ce que ça évoque, c'est un fondamental ou des fondamentaux, je ne sais pas comment dire, dans le sens que si on ne pense pas aux familles en magie, comme dans le cinéma d'ailleurs, c'est comme Monsieur Jourdain qui parle en prose sans savoir qu'il parle en prose.
Oui.
Lui, il fait une découverte extraordinaire parce qu'on lui apprend qu'en fait il est en train de faire de la prose quand il parle. Mais il faisait de la prose avant, hein. Donc quand tu fais un tour de magie, quand tu vois un film, bon, restons dans la magie pour l'instant, quand tu fais un tour de magie, il est clair que ce que tu fais appartient à une famille ou à plusieurs familles. Mais ce qui est clair aussi, même si c'est pas forcément, ça apparaît pas forcément à première vue, c'est que si tu fais, moi je pense par exemple qu'en magie, il y a une trentaine de familles,
oui,
hein, différentes, pour créer un effet.
Oui.
Bon. Il y a malheureusement beaucoup de confrères, même encore aujourd'hui, qui pensent qu'il n'y a que trois familles.
D'accord.
Apparition, disparition, transformation. Moi, j'en ai déjà découvert beaucoup plus grâce à Winston Frère, qui a déjà popularisé dans les années 30-40 17 familles. Donc on est loin des 3. Et moi, j'en suis au stade de 30. Et comme par hasard, George Lucas, qui a réalisé Star Wars notamment, est arrivé à la même conclusion pour le cinéma. Mm-hmm. À peu près 30 familles pour raconter une histoire. Mm-hmm. L'intérêt des familles, c'est si on ne fait pas attention, quand on fait un tour de magie, à la famille dans laquelle on se trouve. Et ça peut être dangereux. Tu vas avoir tendance, puisque tu ne sais pas, voire tu t'en fous, de savoir à quelle famille appartient le tour que tu fais, tu vas avoir tendance à faire un autre tour qui va être de la même famille. Puis peut-être un troisième qui appartient aussi à la même famille. Même si c'est des méthodes différentes et apparemment des effets différents, ça appartient peut-être à la même famille. Et c'est ce qui va créer souvent, chez le spectateur, l'idée que le magicien est chiant. Parce que le magicien, lui, il fait des tours différents, puisqu'il apprend des textes différents, il apprend des techniques différentes, il fait des tours différents. Oui, mais peut-être c'est de la même famille. Donc si c'est de la même famille, pour le spectateur, au bout de deux fois, il en a marre.
Oui.
Donc à toi, justement, c'est pour ça que pour moi c'est fondamental, de d'émailler dans un spectacle un maximum de familles différentes pour justement créer cette envie de continuer de suivre le spectacle. C'est ce que font les cinéastes dans un film. Si tu regardes bien dans un film, même si là c'est pas des familles à proprement parler, tu vas avoir forcément dans un film à gros budget du sexe, de la violence, de l'intimisme, du passionnel, du ceci, du cela. Et c'est des familles.
Oui, oui.
T'es obligé dans un film de voir tout ça. Mm. S'il n'y a pas tout ça, à la limite, le producteur ne produit pas.
Oui.
Alors que nous, magiciens, bah, on fait toujours le même tour et c'est pas grave.
Mm. On fait toujours le même tour ou des tours.
Voilà, c'est famille. Ce que j'appelle faire toujours le même tour.
Oui, 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 ah, au
oui.
final.
Bah oui, parce que pour le spectateur, voilà, oh là, bon. Il nous refait encore le coup de la carte choisie, retrouvée. Ah, c'est dans un citron. Ah, c'est dans une pomme. Ah, c'est dans... Mais c'est toujours la carte choisie, retrouvée. Tu vois, il faut peut-être faire autre chose.
Donc, du coup, c'est ce qui vous donne l'idée, le besoin, la nécessité pour vous, pour être crédible sur scène vis-à-vis du spectateur, de bien réfléchir à ce que vous allez faire. Et c'est vrai aussi bien en table en table que sur scène, ce que vous dites.
Bien sûr. Il faut être sans arrêt dans l'événement, il faut créer une situation, créer un besoin, créer une envie, créer une peur même. Tu vois, moi je trouve que c'est partie des familles. Dans le spectacle qu'on joue justement hier, à un moment donné, Alexandra, dans le texte qu'on a écrit ensemble, je propose qu'elle fasse un bonneto.
Oui.
Mais j'y tiens. Tu vas pas faire un bonneto avec des cartes, tout le monde fait ça. Deux cartes rouges, une carte noire, on essaie de trouver où est la carte noire. Tu vas faire ça comme ça se faisait avant que les cartes existent. Mm-hmm. Ah ouais, bonne idée, me dit-elle, et tac, elle fait ça avec des coquilles de noix,
oui.
qui se faisaient effectivement il y a très très longtemps. Et elle fait ça, c'est génial et tout. Et après, j'arrive, ah ouais, c'est super, mais... Tu vois, si j'avais une critique à faire, lui dis-je dans le texte, bah, c'est que t'as pas la notion de la peur, là. Tu crées pas la peur. Bah, quoi, je crée pas la peur. Bah, si, les gens frissons, tout ça. Ah. Et là, bon, je te passe le texte, on va pas revenir dans le truc. Mais en gros, je lui démontre, par A plus B, que, ouais, bonneteau, pourquoi pas. Mais la notion de la peur physique, mm-hmm. on l'a pas. Mm-hmm. Comment pourrait l'avoir? Et là, je te la fais court. Finalement, j'arrive avec un plateau. Et j'ai des espèces de disques avec des gobelets dessus. Et j'enlève. Et t'as trois disques où il n'y a rien. Et t'as un disque où il y a un clou.
Oui.
Donne tout à examiner. Mettez votre main comme ça. Ah. Ça pique.
Oui.
Et, là, déjà, hein, les gens commencent. Hein. On remet les gobelets. Et je dis, je te raconte l'effet de base. Hein. D'après vous, madame, le clou, il est où? Évidemment, j'ai mélangé un peu. Tu vois. Bah, elle me dit à gauche. Tac! Non, je crois pas qu'il soit à gauche.
Mais là, il y a
sursaut. Là, les gens... Ah, je dis, là, on est dans la peur.
Oui.
Et puis, tac, 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 bon. Donc tout ça, tu vois, là, on a un côté dramatique. On a une autre famille, tout oui. en faisant quelque chose de très, très classique.
Oui.
Mais on a scénarisé de telle façon où, et je dis pas qu'on a inventé le truc du clou, tu vois, c'est pas l'idée, oui. mais scénaristiquement parlant, et dans le texte, on obtient, par la mise en scène, vraiment une vraie peur oui. dans la salle, quoi. Oui. Oui.
Et donc, pour vous, un tour n'est pas justifiable s'il n'est pas mis en scène.
Ah, pour moi, non.
Ouais.
Alors, il peut être justifiable, dans le sens qu'on peut très bien, tu vois, t'es tranquille en train de boire un verre, ou même, tiens, là, si on n'était pas en train de faire une interview, je pourrais dire, tiens, en fait, j'ai eu l'idée, ou j'ai entendu, ou machin m'a montré, ou je sais pas quoi, tac, je te sors de ma poche, je sais pas quoi, un bouchon, ou n'importe quoi, puisqu'on peut faire de la magie avec n'importe quoi, et je vais te montrer, clac, clac, poum. Tu vas faire, ah, le vache, c'est marrant, ou ah, oh, c'est fort, ou ah, oh, je sais pas quoi. Puis hop, je range mon bouchon, puis on n'en parle plus.
Oui.
Donc, je t'ai pas fait de la magie. Je t'ai fait, là, moi, ce que j'appelle une espèce de physique amusante,
oui.
ou un truc un peu, comme si tu me montrais une nouvelle fonction, encore une fois, de l'iPhone.
Oui.
Tiens, regarde, si on fait ça, ah, t'as vu, ça fait marrant.
Mm-hmm.
Mais on n'est pas dans la magie, on est dans un effet visuel.
Oui.
Mais on n'est pas dans ce que j'appelle la magie, un peu comme au cinéma, quoi. Au cinéma, pour que tu vives une action réelle, tu te mets dans une salle de cinéma, on éteint la lumière, on est dans le noir, il y a une projection, il y a un son qui t'englobe de partout, et pendant une heure et demie, on va t'emmener dans un autre monde. Un monde fantastique, un monde de comédie, un monde de fiction, un monde de je ne sais pas quoi, et là on est en train de citer des familles justement, et là seulement grâce à tous ces éléments, tu vas vivre quelque chose, mais au point tu vois d'avoir une sensation physique selon comment le réalisateur et les comédiens ont joué ce que tu es en train de regarder. Pourtant, tu sais très bien que ce que tu vois, c'est pas vrai.
Oui.
Et ben, pour moi, un tour de magie, ça doit être ça.
Mm-hmm.
Sinon, c'est comme quand après on regarde les bonus d'un film, ben, on va voir les effets spéciaux, comment ça a été fait. Là, on est en train de regarder le truc.
Mm-hmm.
Mais quand tu es dans l'action avec le son, la musique, toute l'ambiance, les bruitages et tout, là, c'est autre chose.
On est dans un autre monde, mmh. un monde de magie qu'on essaiera d'explorer encore et encore et encore lors des missions suivantes, parce que on arrive déjà à la fin de l'émission numéro 5. Dominique, au revoir et à bientôt.
À très vite.